Bon, on va reprendre, donc, comme dernier atelier, conférence cet après-midi. On accueille Dominique Noël et Pierre Van Damme, et ça va traiter des nouvelles recherches sur la dépression. C'est Pierre qui va commencer, donc Dominique, je te laisse le présenter.
Parfait. Alors, bonjour. Est-ce que je parle trop fort? Ça va? Alors, ça me fait vraiment plaisir de vous présenter mon collaborateur pour cet atelier sur la dépression et la PGRO, Pierre Van Damme, psychologue clinicien, psychothérapeute depuis 1976, né formateur depuis 1993, cofondateur et responsable du Changer, Institut de Gestalt dans le Nord. Il a un parcours de formation impressionnant. Il ne voulait pas que j'utilise le mot impressionnant, mais moi, je voulais l'utiliser. C'est impressionnant. Alors, en effet, il détient une licence, une maîtrise et un doctorat en psychologie clinique, un certificat de formation approfondie en gestalt thérapie, formation de troisième cycle et superviseur didacticien du CIG, et plus récemment, une formation sur les liens entre pleine conscience et psychothérapie. Il y a plusieurs écrits à son actif et ses liens avec la PGRO datent de 1992 et la PGRO est devenue pour lui une référence. Il l'a illustré dans l'écriture d'un ouvrage qui vient de paraître, « L'espace-temps en psychothérapie, une approche de la gestalt-thérapie en lien ». Et dernièrement, ses questionnements théorico-cliniques portent sur la nouvelle recherche sur la dépression au regard de la PGRO et des neurosciences. Il va nous en faire part aujourd'hui.
Avec tout ça, il faut être à la hauteur. Hein? Ça ne va pas être facile. Bon, je me risque un peu à la nouveauté. J'accepte mes imperfections. J'espère que je ne vais pas trop plomber la salle parce qu'on va parler des dépressions après les traumas. Donc, si jamais c'est trop dur, vous ouvrez la main. Hein? Et merci, Dominique. Alors, en 2002, j'avais présenté au colloque de la PGRO à Montpellier avec Marc-Simon Drouin, du Québec, quelques aspects visant à comprendre et accompagner la dépression. Près de 12 ans après, la théorie de la PGRO a évolué, ma pratique de thérapeute et de formateur aussi. J'ai voulu réinterroger de nouvelles voies de recherche à travers trois repérages nouveaux. Une relecture du tome 3 de Bowlby sur la perte, les récents travaux des neurosciences affectives, les travaux sur la récidive et la prévention des rechutes dépressives. Ces propositions sont modestes, je ne suis pas seul, et c'est le fruit d'une réflexion partagée comme formateur en psychopathologie à l'Institut Changer. Je suis convaincu aussi qu'il n'y a pas de certitude linéaire et définitive, mais des questionnements féconds qui ouvrent des pistes de recherche pour mieux saisir la complexité du monde du dépressif et surfer sur les terres du changement au travers de la beauté du lien thérapeutique. À la suite de la PGRO, mettant l'accent sur l'importance du lien, je propose de définir la dépression comme une réaction bio-psychosociale à une perte de lien. Le lien est entendu comme la capacité d'un sujet à garder intact à l'intérieur de lui une relation dans la durée avec toute la charge affective de liaison et de cohérence interne, susceptible de lui apporter un sentiment continu d'existence. La perte de lien par mort, séparation, fin d'une situation, absence et privation de la présence d'une figure d'attachement provoque un effondrement des défenses du système psycho-immunitaire que constitue la personnalité et entraîne des réactions biopsychosociales. Comment fonctionne le self du dépressif? Avec une figure peu formée, l'énergie circule mal et essentiellement la fonction ça qui est à l'œuvre avec présence d'une anhédonie, d'affects peu intenses, d'ennui, de monotonie, de culpabilité, voire de honte, d'affects de tristesse ou d'irritabilité qui se déploient difficilement à la frontière contact. Le self du dépressif se repère aussi à travers les douleurs physiques ou les mécanismes d'urgence, d'anesthésie ou de passage à l'acte sous forme d'auto-agression. Vous l'avez compris, seeking et play system sont absents. La fonction « je » est amoindrie dans ses dimensions d'orientation et de décision. C'est souvent le doute et l'indécision qui prédominent chez le dépressif. Les modes pathologiques de régulation du « je » qui sont le plus à l'œuvre sont l'introjection dans les messages de nullité ou de fatalité, la projection négative sur l'autre, rejetant ou décevant, la confluence avec un autre perdu, comme déni de la perte, la rétroflexion massive dans les somatisations ou le retour de l'agressivité sur soi. Dans la fonction personnalité ou MRC, l'image de soi est négative. Le dépressif est blessé narcissiquement et le monde est perçu comme dangereux ou frustrant, non soutenant. Faut-il parler de la ou des dépressions ? La multifactorialité, voire la comorbidité, laisse penser qu'il y a des voies d'entrée et des formes différentes qui s'échelonnent sur un continuum normal-pathologique. On distingue sur cet axe trois voies d'entrée. La voie d'entrée biologique, la dépression peut être liée à une maladie somatique, comme par exemple les troubles hypothyroïdiens. La perte est alors une perte d'équilibre organique interne. La voie d'entrée psychiatrique. La dépression grave unipolaire sous forme de mélancolie ou d'un trouble bipolaire maniaco-dépressif est souvent associée à des formes familiales génétiques. C'est une dépression endogène. La perte est ici un effondrement psychique interne, tel un gouffre qui s'ouvre brusquement. La voie d'entrée psychosociale, les dépressions réactionnelles, apparaissent à la suite d'un événement douloureux et de situations de stress extrême. La perte est d'abord exogène. Mais cette perte est celle d'une situation actuelle, mais peut souvent réactiver une perte plus ancienne, passée. La voie d'entrée est alors psychologique, puisqu'elle implique le devenir des expériences inachevées, de rupture ou de perte dans l'histoire du patient. C'est là que la PGRO intervient pour aider à repérer les reproductions et les récidives à des pertes dans des champs expérientiels présents ou passés. Il convient alors d'approcher le fond de personnalité des patients plus ou moins vulnérables à la dépression, comme les personnalités pathologiques, évitantes, dépendantes, borderline ou obsessionnelles. Les travaux consacrés aux risques dépressifs mettent l'accent sur l'importance des expériences de perte précoce et sur les causes possibles d'altération de l'estime du soi. J'avais en 2002 étudié, dans une perspective d'ouverture multimodale, quelques auteurs en psychanalyse qui ont décrit les stades précoces où semblent retourner les dépressifs. Freud, Carl Abraham, Mélanie Klein. Spitz, lui, a le premier décrit dans l'observation directe d'enfants hospitalisés, un état de déprivation maternelle. Bowlby s'inscrit dans la même lignée que Spitz. J'ai approfondi sa pensée en relisant le tome 3 de son livre Princeps, Attachement et perte, qui s'intitule La perte, tristesse et dépression. Il envisage la dépression comme la rupture d'un lien d'attachement, en raison de séparation ou d'expérience de perte précoce, l'attachement étant défini comme un besoin inné et primaire de contact social. Lorsqu'on éloigne de jeunes enfants de la figure maternelle, on parlerait aujourd'hui de caregiving ou du parent qui soigne, et qu'ils se trouvent dans un lieu inconnu auprès d'étrangers, ils protestent sous forme de pleurs et de colère. C'est la phase d'affliction, de chagrin, qui exprime une détresse ressentie devant une perte dramatique équivalent à la mort du parent. Puis le désespoir s'installe. Ce comportement évolue rapidement en inactivité et retrait dans une souffrance indicible. Cela prend la forme de languissement nostalgique pour la personne perdue, de reproches et de colère à l'égard de la personne perdue ou d'auto-accusation incessante contre lui-même, de tentatives d'intérêt et de soins compulsifs portés à d'autres enfants, de déni, comme refus de croire que la perte est définitive. Bowlby a établi la relation entre les réactions pathologiques chez des patients adultes avec les réactions à la perte ou à la menace de perte dans l'enfance. il remet en cause le concept de position dépressive de Mélanie Klein. Pour elle, en effet, le jeune enfant serait capable, très précocement, au cours du second semestre de vie, de répondre à la perte. Il s'agit au contraire pour Bowlby d'un processus lent de maturation durant toute l'enfance et l'adolescence, voire toute la vie, pour créer ou retrouver une base de sécurité au lien d'attachement. Cela rejoint la conception de la PGRO d'un développement en continu. Ce qui est pathologique selon Bowlby, ce n'est pas le processus défensif lui-même, que davantage son étendue, son intensité, sa tendance à persister, le degré d'irréversibilité de la perte qui engramme ce qu'il appelle des modèles opérants internes de représentation du lien, MOI, des modèles soit autres, déviants, et des attachements ultérieurs, insécures, de type schizoévitant, inorganisés ou anxieux. Ces MOI se rapprochent de la matrice de représentation du champ en PGRO, qui structure au long cours la façon dont chacun se voit, conçoit le monde et organise son mode relationnel. Pour Bowlby, le deuil est complexe, car conflictuel. C'est un système de réactions qui rentre en conflit entre elles, désir de retrouver l'objet perdu ou de le détruire, s'approcher ou s'éloigner de l'objet aimé, amour ou haine, demande d'aide ou se détacher, s'isoler, voire rejeter ceux qui veulent l'aider. Bowlby est plus proche d'une théorie du conflit interne pour décrire la dépression que d'une théorie de la carence. Il rejoint en cela la notion de dilemme de contact dans la complexité vécue d'une expérience précoce d'une situation indispensable et intolérable à l'origine de la mise en place de microchamps introjectés dans l'arrière-fond du sein. Bowlby, dans son livre « Les bases de sécurité », indique une voie de changement pour traiter les pathologies de l'attachement comme la dépression, qui rejoint la démarche de la psychothérapie du lien. Selon lui, le thérapeute a 5 tâches. 1. Explorer les émotions et souvenirs douloureux liés aux expériences de perte, c'est-à-dire travailler les émergences du ça. 2. Explorer les relations actuelles du patient avec ses proches et les effets néfastes de ces expériences, c'est-à-dire, pour nous, explorer le champ 3, externe et interne. 3. Comprendre la relation actuelle avec le thérapeute, c'est-à-dire travailler le champ 1 et 2. Le mode de relation du dépressif est pré-objectal. Et le thérapeute a accepté de ne pas exister à part entière pour son client, de n'exister que partiellement dans la fonction d'étayage et de portage. 4. Repérer la manière dont les modèles opérants internes de représentation du lien, MOI, s'enracine dans les expériences infantiles avec les figures primaires d'attachement, c'est-à-dire travailler le champ 4, en lien avec les pertes précoces et les dilemmes de contact originels. 5. Aider le client à réaliser la valeur adaptative qu'avaient ces MOI dans un contexte passé de survie et leur côté inapproprié aujourd'hui pour tenter de créer de nouvelles MOI, c'est-à-dire pour nous, un travail de reconnaissance et de réparation en modifiant la matrice de représentation du champ. D'où l'importance pour Bowlby, pour le thérapeute, d'être au clair avec sa manière d'être un caregiving et de développer une posture qui favorise l'alliance et l'expérience d'une relation d'attachement plus sécure. Deuxième apport, l'apport des neurosciences affectives. À partir des recherches développementales et neurobiologiques sur la perte et la rupture de liens précoces, Cosolino, Shore, Stern et bien d'autres vont éclairer et affiner de manière nouvelle la compréhension et l'accompagnement des dépressifs. Sans être très avancé dans la connaissance des neurosciences, et je m'en excuse, je m'y suis intéressé pour me permettre d'intégrer ces apports nouveaux à la psychothérapie des dépressifs. À un niveau macroscopique, il apparaît que la dépression sévère prend sa source précoce dans une altération de la fonction préfrontale orbitolimbique. Le tableau de l'imagerie mentale comparative suivante montre de façon impressionnante, très éclairante, les zones activées ou désactivées dans la dépression. Plus finement, on observe à la fois une hypoactivité du cortex préfrontal dorsolatéral, c'est-à-dire la partie du cerveau qui est derrière le front, qui engendre les symptômes suivants: ralentissement psychomoteur, apathie, troubles amnésiques et déficit d'attention, mais aussi une hyperactivité du cortex préfrontal ventromédian, qui est le siège des pensées, et aussi de l'amygdale, qui est le siège des émotions, et qui engendre les symptômes suivants: sensibilité à la douleur, tension, anxiété. C'est la métaphore de la casserole de lait qui chauffe. Plus le feu des émotions est hyperactif, plus le lait des pensées risque de déborder en rumination et en croyances négatives. La sévérité de la dépression est corrélée avec une hyperactivité de l'amygdale. Enfin, sur le long terme, dans la dépression sévère, on observe des changements même dans la structure du cerveau, comme une réduction de la taille de l'hippocampe, qui est le centre de la mémoire explicite. En commentaire, ce qu'on peut dire, c'est que la dépression est essentiellement, sur le plan neuronal, une perturbation du désir de vivre, d'être et d'aller vers l'autre. En effet, le réseau cérébral du désir concerne surtout le système limbique. Ce système du désir est entravé dans la dépression. Il y a 10 régulations. Soit l'exacerber dans des excès de tristesse ou de colère, voire de peur, soit dans une inhibition, voire une coupure des affects. Il y a alors clivage et dissociation avec la pensée réflexive, ce qui donne une pensée vide ou en blanc, une pensée en boucle sous forme de rumination, d'où bien sûr une difficulté à la mentalisation. À un niveau microscopique maintenant, deux théories neuronales complémentaires sur l'origine de la dépression sont en présence. Première théorie neuronale, on constate un taux moins élevé des neurotransmetteurs monoamides, comme la sérotonine, la noradrénaline, etc. Et un taux plus élevé des cytokines, c'est-à-dire des destructeurs des neurotransmetteurs, ce qui entraîne des symptômes de dépression. D'ailleurs, les antidépresseurs agissent souvent pour relever artificiellement ce taux des neurotransmetteurs. Deuxième théorie neuronale, une altération de la réponse au stress. En cas de stress, le cerveau envoie un message aux glandes surrénales qui produisent des hormones permettant d'agir, de fuir ou de se battre. C'est le système sympathique. Puis le corps se met en résistance au stress par le système parasympathique. Il y a feedback et production de cortisol pour freiner et calmer la situation. Or, chez les patients atteints de dépression sévère, on remarque un taux de cortisol élevé. Cette mauvaise régulation du taux de cortisol rend la réponse au stress incontrôlée ou mal contrôlée. D'où fatigue, perte d'appétit et de libido, hypersensibilité à la douleur. Quelles conséquences pour la psychothérapie de la dépression ? Cette pathologie nécessite un aménagement du cadre thérapeutique. Il faut pouvoir opérer en plusieurs étapes, tenant compte du niveau d'urgence et du degré de conscience du patient. Avant de parler de dialogue herméneutique, il convient de se mettre à l'écoute des blancs de la relation, de travailler à la rementalisation par un dialogue pré-herméneutique. Comme le dit Fédida, ce qu'il y a de si humain dans la dépression, c'est qu'elle intervient sur les zones les plus sensibles, les plus fragiles, d'émergence de sens. Et les échanges non-verbaux deviennent des facteurs majeurs du processus thérapeutique. Le thérapeute va agir comme un régulateur des états affectifs du client. La régulation émotionnelle est la clé du traitement. Le dialogue pré-herméneutique agit de cerveau droit à cerveau droit, et l'amygdale étant excitée, le travail cathartique est à proscrire. Parler en images, en métaphore, pour nommer une expérience muette et innommable peut commencer à créer une ouverture dans l'espace fermé du dépressif. Les métaphores produites pour imager la dépression ne manquent pas de solliciter le froid, le silence glacé, la disparition de toute vie ou l'enlisement dans des marécages ou des sables mouvants. Le thérapeute a par moments la responsabilité de se faire le porte-parole de la partie vitale enfouie du client pour lui redonner toute sa place. Yves Prigent parle de dévoilement existentiel. Il s'agit d'une parole vive où un être, le thérapeute, dit à un autre être, le patient, ce qu'il sent, ce qu'il perçoit de lui. Il m'est arrivé aussi de proposer un support concret de créativité, comme une musique, une photo, un dessin, un découpage, quand toute communication verbale devenait impossible. Cela peut aider grandement à relancer le processus de créativité et la relation. Les neurosciences affectives aident à mieux comprendre les désordres provoqués par les expériences dépressives et la dissociation qui opère une régression relationnelle. Sur le plan transférentiel, le thérapeute n'existe pas en tant que personne à part entière, encore moins en tant qu'être sexué. On se situe ici dans un espace préobjectal, en deçà d'une relation. Le dépressif est en quête d'un objet perdu et aimé. Soit l'autre est incorporé et idéalisé pour combler le vide, puis rejeté, soit la relation est de type anaclitique, l'autre n'étant là que pour s'appuyer dessus, pour tenter de remonter à la surface. Le thérapeute est avant tout une ambiance, un accueil, un lieu sécurisant, un repère, un contenant, où le patient peut déverser toute sa détresse, son angoisse, et peu à peu prendre forme comme être existant et désirant. Le thérapeute s'offre dans un premier temps comme objet anaclitique. Il a supporté d'être l'objet d'identification projective par son client et de vivre des sentiments contrastés. Colère, climat mortifère, inexistence, ennui, agacement, endormissement, anesthésie. En tenant cette place et en contenant ses affects, le thérapeute va permettre qu'un lien suffisamment fort se tisse. La dépression est une crise de sens de la vie. Le sens de l'expérience pourra ensuite, par le langage, être communiqué par l'hémisphère gauche, dans une expérience consciente intersubjective à travers un dialogue herméneutique. Le thérapeute aide progressivement le patient à mettre des mots et à faire des liens entre les différents épisodes dépressifs sur ce qui se répète au fil du temps, dans un travail de reconnaissance. Mais il convient de vérifier que les pensées automatiques ne se mettent pas en route en termes de rumination en boucle fréquents chez les dépressifs. Ce n'est qu'ensuite que des expériences restauratrices vont pouvoir se vivre. Il s'agit de réparer le lien perdu pour en faire un lien intériorisé. Il y a réparation quand le patient sort de la répétition, du silence, quand il décide de vivre l'expérience d'exprimer ses sentiments négatifs comme la colère ou positifs comme le désir. Il s'agit de passer de la dépression à l'expression du ressenti dans une régulation affective à travers la dyade thérapeute-patient. Un jeu advient face à un tu. Ce que Yves Prigent nomme désenclavement, je l'appelle restauration du lien vital. C'est avoir confiance dans la libre circulation du désir. C'est restaurer ce que Jean-François nommait ce matin, aller vers et la capacité à jouer et à créer. S'appuyant sur la plasticité du cerveau, il s'agit de tracer de nouvelles voies neuronales qui sortent le patient de l'enlisement et de la reproduction. Troisième apport, lutter contre les risques de récidive de la dépression. J'étais particulièrement touché quand j'ai appris 2 ans après l'arrêt de la thérapie le décès par suicide d'une ancienne patiente dépressive. Je croyais avoir fait du bon travail avec elle suffisamment long pour penser naïvement qu'elle était sortie du cycle infernal de la dépression et de la destruction. Elle n'a pas supporté une rupture conjugale qui a réactivé tout son système d'idées et de croyances parasites, de dévalorisation d'elle-même, de perte de confiance dans les autres, particulièrement envahissante dans la dépression. comme vous le comprenez, j'ai été fort touché. C'est un système enfermant dans des ruminations incessantes, dans des questions sans réponse et qui conduit au désespoir et à l'autodestruction. Je ne pensais pas que l'émotion allait revenir. Ben vous comprenez que ça m'a mobilisé. Des études statistiques ont montré que le risque de rechute augmente pour un patient avec le nombre d'épisodes dépressifs. Après un épisode, le taux de rechute est inférieur à 50%. Après deux épisodes, le taux de rechute est compris entre 60 et 70%. Et après trois épisodes, le taux de rechute est égal ou supérieur à 90%. On a même pu faire l'hypothèse d'une personnalité post-dépressive, avec une sensibilité exacerbée aux frustrations. 80% des patients traités pour un épisode dépressif présentent une réponse au traitement, mais seuls 50% progressent vers une rémission et une guérison complète. 30% des sujets traités n'atteignent qu'une rémission partielle, d'où nécessité d'aider le patient à accepter sa fragilité et à apprendre à se prendre en charge sur le plan de sa santé physique et psychique. D'où une recherche pour lutter contre les récidives de la dépression. À la suite de Jon Kabat-Zinn, qu'il a le premier appliqué à des patients anxieux, un programme d'entraînement à la pleine conscience, appelé Mindfulness Based Cognitive Therapy, ou MBCT, inspiré des principes de la méditation bouddhiste, a été mis au point par des thérapeutes anglo-saxons cognitivistes de la troisième vague, John Tisdall, Mark Williams et Zidane Seagal. Ils ont fait un constat. En présence d'un état de tristesse transitoire, les patients ayant déjà eu plusieurs épisodes dépressifs ont tendance à réactiver des patterns de pensée et d'émotions négatives pouvant déclencher une rechute. La MBCT vise la prise de conscience du mode de fonctionnement et favorise une nouvelle attitude à l'égard de ses pensées et émotions. Les pensées sont vues comme des événements mentaux, indépendamment de leur contenu et de leur charge émotionnelle. Laissez passer la pensée comme l'eau sous le pont, sans s'y accrocher. La MBCT aide les personnes à observer et à se séparer leur expérience des jugements au sujet de leurs propres valeurs, ce qui leur apprend à faire de meilleurs choix pour réguler leurs humeurs. Comme dit Jon Kabat-Zinn, vivre en pleine conscience, c'est porter attention sur l'expérience du moment présent de façon intentionnelle et sans jugement de valeur sur ce qui vient. Comme pour la psychothérapie, les recherches en neurosciences ont confirmé les effets bénéfiques de la méditation sur le bien-être physique et psychique. Que se passe-t-il dans le cerveau d'un patient soumis à la MBCT lorsque des pensées négatives font surface? Au lieu des schémas d'activation neuronale, où c'est le cortex préfrontal qui domine dans les moments de tristesse, les activations semblent plutôt divisées entre les régions préfrontales et latérales du cortex chez les personnes qui ont été traitées selon la méthode de pleine conscience. Ces patients peuvent ainsi en apprendre davantage sur le sens des expériences de tristesse. Cela favorise un travail de rementalisation et de déclivage. Et bien sûr, ça nous rappelle notre travail en PGRU. Ce cycle d'entraînement sous forme de 8 sessions de 2 heures ne remplace pas ni un médicament ni une psychothérapie, mais s'avère un complément précieux pour apprendre à mieux vivre au quotidien. Si ce cycle est inspiré de la thérapie cognitive, je l'ai réajusté à l'approche humaniste et relationnelle de la gestalt-thérapie du lien qui s'enracine dans la philosophie orientale. Vous trouverez là un tableau de correspondance entre les deux démarches. Par exemple, pleine conscience, gestalt-thérapie du lien, développer l'awareness ou la pleine conscience, vivre le présent ou l'ici et maintenant, passer d'une régulation affective client-thérapeute à une autorégulation de ses émotions. Après 7 années de pratique personnelle du Zazen et 2 années d'expérience professionnelle d'animation des sessions de pleine conscience, je découvre les ressources de ces expériences, qui s'adresse à des personnes étant sorties d'une ou des épisodes dépressifs. Chaque session permet de faire l'apprentissage d'exercices d'éveil par des temps de méditation active, en marche ou en assise, de créativité, en restant centré sur les différents sens, vue, ouïe, odorat, goût, toucher, comme voie d'entrée, de compréhension et de rencontre. Il n'y a pas de travail sur la recherche de sens, comme en thérapie, dans l'histoire développementale. La psychothérapie est une étape nécessaire, mais peut être poursuivie judicieusement par un entraînement à une vie plus éveillée, par une capacité autonome de prise de recul et d'autorégulation émotionnelle au quotidien. C'est le cercle vertueux de la pleine conscience. Observer le ressenti corporel, discerner l'émotion, prendre conscience du fonctionnement ou du dysfonctionnement, agir de façon réfléchie et valoriser son image de soi, un peu à l'image du cycle de contact. Après 2 ans de début de pratique, je tire bien sûr un bilan limité. 30 personnes, à titre préventif de la rechute dépressive, ont été accompagnées en journée ou en soirée. Toutefois, il est nécessaire de poursuivre l'expérience et d'affiner l'évaluation pour en mesurer les effets du changement dans la durée. En conclusion, poser de façon paradoxale la question des bienfaits de la dépression. J'ai voulu réinterroger de nouvelles voies de recherche sur la dépression à travers 3 repérages nouveaux. Ces 3 repérages viennent confirmer les intuitions premières et l'expérience théorico-clinique de la psychothérapie du lien dans la compréhension et l'accompagnement des pathologies archaïques comme les dépressions sévères. 1. Bowlby nous invite à développer une posture qui favorise l'alliance avec le client dépressif pour lui permettre de vivre l'expérience d'une nouvelle relation d'attachement plus sécure. À travers les neurosciences affectives, l'expérience thérapeutique de la dépression est aussi une chimiothérapie qui nous invite à travailler à la rementalisation par un dialogue pré-herméneutique afin de réparer le lien perdu pour en faire un lien intériorisé et tracer de nouvelles voies neuronales qui nous sortent des ornières de la répétition. La psychothérapie transformative est une étape nécessaire, mais pour prévenir de nouvelles récidives de la dépression, elle peut être complétée judicieusement par un entraînement à une vie plus éveillée à travers la pratique de la centration et l'auto-observation de sa vie interne, affective et mentale. Peut-être alors pourrions-nous parler avec Pierre Fédida des bienfaits de la dépression, parce qu'elle survient dans des moments où la vie lutte contre la mort, cherche à se protéger et à se transformer. Mais pour cela, il faut être 2. Donner du temps à l'écoute, au silence. Alors et alors seulement, la pensée, la parole et l'action redeviennent possibles pour restituer au sujet déprimé sa capacité à la dépressivité et la créativité psychique. Je vous remercie. Dominique s'acharne avec la technique.
C'est pas mon fort.
Je vais présenter Dominique. Alors, j'ai plaisir de vous présenter Dominique Noël, avec qui nous collaborons depuis 7-8 mois. Dominique est psychologue et exerce en pratique privée à Gatineau, au Québec, comme psychothérapeute avec des adultes. Elle a fait ses études de psychologie à l'Université d'Ottawa de 1974 à 1980. Elle connaît la gestalt-thérapie depuis 1980 et a découvert la PGRO en 1999. Elle a suivi toute la formation au CIG pour devenir psychothérapeute et superviseur accrédité. Elle a repris ses études en doctorat de psychologie clinique à l'Université de Sherbrooke depuis 2006, dont elle met la dernière main cette année. Sa thèse porte sur la dépression, intérêt commun que nous partageons, d'où nos échanges. Et ce sont les résultats passionnants et très documentés de ses recherches dont elle va nous parler ce soir.
Bonjour. Je ne suis pas tellement à l'aise avec les aspects techniques, c'est presque plus stressant que le reste. Alors, je me retrouve ici avec beaucoup d'émotions, à la fois excitée, quelque peu intimidée, de me retrouver devant vous. Ceux qui me connaissent un peu savent qu'il s'agit pour moi aujourd'hui d'un ajustement très créateur. Ça dit tout. Donc, voilà, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne depuis quelques années, l'apport potentiel de la PGRO au traitement du trouble dépressif majeur accompagné d'une pathologie de la personnalité. Je vais regarder avec vous d'abord l'importance de s'intéresser au trouble dépressif majeur. C'est un trouble complexe, souvent chronique et récurrent, dont les défis sur le plan du traitement sont de taille. Puis, je vous parlerai des résultats prometteurs de la recherche doctorale que je suis en train de compléter sur l'application de la PGRO au trouble dépressif majeur accompagné d'une pathologie de la personnalité. Je clique pas, là, hein? Non. Là. OK, j'étais dans mon plan. Alors, voilà, je suis encore dans mon plan. Enfin, excusez-moi, vraiment, les éléments techniques, c'est pas mon fort. Il va peut-être avoir des petits écarts. Enfin, des principes empiriquement associés aux changements thérapeutiques pour les troubles dépressifs ont été élaborés, appuyés sur l'état des connaissances actuelles. Dans le cadre de ma recherche, j'ai situé la PGRO par rapport à ces principes et je vous ferai part de mes observations et des recommandations qui en découlent pour mieux ajuster, adapter la PGRO aux pathologies dépressives. Alors, d'où me vient cet intérêt? Bien, en tant que psychologue clinicienne, je travaille depuis nombre d'années avec des clients souffrant de dépression, de troubles dépressifs majeurs en particulier. Et je constatais un certain succès à soigner l'épisode en quelques mois, mais j'observais avec le temps que certains revenaient dans mon bureau, à nouveau affligés quelques années plus tard d'un épisode dépressif. Ils frappaient à nouveau leurs limites et moi, je frappais les miennes. C'est à ce moment-là que je me suis intéressée au problème de la récurrence et j'en ai fait mon sujet de recherche quand j'ai commencé mes études doctorales. Ce n'est pas étonnant qu'un pourcentage important de nos clients soit en dépression. Son incidence est à la hausse. Selon certaines études, elle aurait même doublé depuis 30 ans. Ce fut la cause principale d'incapacité en l'an 2000 et l'Organisation mondiale de la santé prévoit que ce sera la deuxième maladie la plus importante d'ici 2020 après les maladies cardiovasculaires. Le problème de la rechute, comme a dit Pierre tantôt, est important. Alors, Schultz qui l'a déjà dit, les taux de rechute qui sont énormes, 25 % en un an, 75 % de rechute sur 10 ans, et 10 % qui vont souffrir de dépression chronique, donc sans rémission. Le nombre d'épisodes, évidemment, accroît la récurrence, comme l'a dit Pierre, et il y a deux fois plus de femmes que d'hommes qui en souffrent. Et un premier épisode, avant l'âge de 20 ans, constitue un facteur de vulnérabilité à la rechute. Il est donc impératif de développer des traitements plus efficaces qui non seulement vont résorber l'épisode actuel, mais également prévenir la rechute. Car les traitements actuels ont des limites importantes à cet égard. Je tiens à préciser que mes propos aujourd'hui ciblent une catégorie particulière de dépression, le trouble dépressif majeur, donc la forme la plus aiguë. Ça ne veut pas dire que mes propos ne sont pas pertinents pour de la dysthymie, par exemple, mais moi, ce que j'ai étudié, c'est le trouble dépressif majeur. Je vous rappelle donc très brièvement les caractères, les critères diagnostiques du trouble dépressif majeur selon le DSM-5. Alors, au moins un des deux symptômes en rouge, est-ce qu'ils sont en rouge? Ils sont en rouge sur mon affiche. Les deux premiers devraient être en rouge. Enfin, un des deux premiers, donc. Donc, l'humeur dépressive ou bien l'anhédonie, le manque d'énergie. Et au total, 5 symptômes qui sont présents toute la journée, tous les jours, pendant au moins 2 semaines. Peut-être utilisez-vous davantage le manuel diagnostique CIM-10, mais dites-vous que ce sont les mêmes critères, ils sont équivalents, c'est juste le nom qui change, ils appellent ça épisode dépressif caractérisé. Mais c'est la même chose. Alors, revenons maintenant à l'efficacité des traitements pour la dépression. Comme j'en avais fait l'expérience maintes fois dans ma pratique, l'état des connaissances actuelles nous indique que plusieurs approches sont efficaces à court terme et réussissent à résorber l'épisode dépressif. Mais le taux de rechute est bien élevé, les clients souffrant à nouveau d'un épisode dépressif après quelques années. De fait, un quart à un tiers demeurent en rémission après 2 ans suite à un traitement de courte durée. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a très peu de justification pour des traitements brefs. Les approches validées à court terme sont les suivantes. Cognitive comportementale, psychodynamique interpersonnelle, interpersonnelle et pharmacothérapie. Je me suis intéressée aussi à l'efficacité des approches psychodynamiques et expérientielles à cause de leur affinité avec la PGRO. La recherche empirique actuelle dit que les approches psychodynamiques brèves, en fait, ont le même problème de récurrence, mais possiblement moindre. Une étude récente estime que 58 % demeurent en rémission sur 5 ans, ce qui est pas mal mieux que les chiffres qu'on a pour des traitements brefs avec les autres thérapies. Alors, c'est prometteur quand même. La thérapie psychanalytique à long terme serait efficace pour les dépressions en comorbidité avec les troubles de personnalité et troubles anxieux. Et la thérapie focalisée sur les émotions, qui est une approche qui a des affinités avec la PGRO. Elle partage avec elle ses racines gestaltistes et le travail sur les émotions. Et cette approche réussirait à résorber l'épisode dépressif à court terme, ainsi qu'améliorer l'estime de soi et les relations interpersonnelles. Or, l'estime de soi et les enjeux relationnels supposent un travail sur la personnalité. Il semble donc que ces approches qui incluent le travail sur la personnalité ont un peu plus de succès pour prévenir la rechute, et ce même dans un traitement court terme. Essayons maintenant de mieux comprendre les limites de plusieurs approches pour traiter la dépression. Autrefois, la dépression, en tout cas moi quand j'ai commencé mes études, c'était comme ça, c'était un peu considéré comme le simple rhume de la psychopathologie. C'était pas trop grave. On constate aujourd'hui qu'il s'agit d'un trouble complexe, chronique, qui est très, très difficile à traiter sur le plan du traitement. Et on a tenté de mieux comprendre quels facteurs peuvent contribuer aux dépressions réfractaires. Alors, parmi ces facteurs, il y a la comorbidité avec des troubles anxieux, avec des troubles d'abus de substances, avec d'autres maladies chroniques, comme les maladies cardiovasculaires, et le trouble de personnalité. En effet, la pathologie de la personnalité peut contribuer à la récurrence de la dépression et en compliquer le traitement, comme vous en avez sûrement fait l'expérience. Saviez-vous qu'environ 45 % des clients souffrant d'un trouble dépressif majeur ont aussi un diagnostic de trouble de personnalité? Donc, quand un client se présente à votre bureau avec un trouble dépressif majeur, dites-vous qu'il y a presque une chance sur deux d'avoir aussi un trouble de personnalité, ce qui change pas mal les objectifs thérapeutiques. Les troubles les plus courants sont les troubles évitants, limites, dépendants, obsessionnels compulsifs et paranoïdes. La comorbidité affecte la réponse au traitement, il y a moins de rémission, il y a plus de symptômes résiduels et la durée de psychothérapie moyenne double. Alors, pourquoi le client souffrant d'une pathologie de la personnalité est plus à risque de dépression? Pourquoi? Alors, on sait que le trouble de personnalité est caractérisé par un mode rigide, chronique, de l'expérience cognitive, affective et relationnelle. On sait aussi que l'épisode dépressif est presque toujours précipité par un événement de vie stressant, une rupture amoureuse, une perte d'emploi, des problèmes financiers, un enfant qui est malade. Alors, les troubles de personnalité ont en fait plus de difficultés relationnelles, à cause de carences sur le plan de leur habilité sociale. Et donc, ils sont plus à risque de s'exposer à des stress, les générant souvent à leur insu et ainsi développer un trouble dépressif. Regardons maintenant quelles dimensions de la personnalité sont associées aux troubles dépressifs majeurs, parce qu'il y a eu de la recherche là-dessus. Il y a certains traits qui sont spécifiques à la dépression. Alors d'abord, il y a trois grandes dimensions de personnalité associées à la dépression. Le névrosisme élevé. Pardonnez la traduction, mais c'est celle qu'on retrouve partout la plupart du temps. Un peu bizarre, mais c'est comme ça. Alors le névrosisme élevé, c'est une dimension caractérisée par l'instabilité émotionnelle, la disposition aux émotions négatives, la réactivité émotionnelle qui affecte la capacité de raisonner. Dans notre langage PGRiste, on parlerait de dysrégulation affective et de carence de mentalisation. L'extraversion faible maintenant, caractérisée par le retrait, des gens qui ont peu d'énergie, peu d'émotions positives, ils sont tristes, frustrés, pessimistes, taciturnes et n'ont pas tendance à s'affirmer. Le troisième, c'est le caractère consciencieux faible. Ce sont des gens qui ont peu de discipline et de respect des obligations, sont impulsifs, peu capables de se mobiliser dans l'atteinte de leurs buts. Un rappel de la dysrégulation affective, encore une fois, et peut-être des troubles limites également. Maintenant, des traits plus spécifiques qui sont en lien aussi avec la dépression, ce sont probablement des facettes des dimensions plus larges que je viens de vous présenter. Alors, parmi ces traits plus spécifiques, il y a la rumination, qui est une tendance à s'attarder à des pensées et des émotions tristes. Il y a l'évitement du danger, qui comprend l'inquiétude excessive, la timidité, l'incertitude, la fatigue. Ça serait un ajustement conservateur. Et l'autocritique, qui comprend la présence de culpabilité, sentiment d'échec, résultant d'attentes sévères envers soi. Et finalement, la dépendance qui se manifeste par des préoccupations relationnelles, la peur de l'abandon, sans diminuer sans l'autre. Ça aurait pu être une image avec un gars qui suit une femme aussi, là. Ça a tombé comme ça! Alors, regardons maintenant comment personnalité et dépression interagissent. Bien, ils cohabitent plutôt bien, malheureusement. La dépression ne modifie pas la personnalité à long terme. Certains traits sont modifiés temporairement par la dépression et d'autres demeurent stables. Donc, c'est peu probable que l'épisode dépressif soit responsable de modifications durables de la personnalité. Okay? Alors, il y a des changements, c'est certain, pendant l'épisode dépressif, mais ça revient à ce que c'était avant, après. Par contre, la personnalité, elle... La pathologie de la personnalité, elle, peut affecter le cours de la dépression. Certains traits, comme le névrosisme, prédiraient des épisodes dépressifs ultérieurs. Des traits affectent clairement le développement du trouble dépressif majeur et la réponse à la psychothérapie. Alors, nous allons maintenant regarder brièvement la nature probable de ce lien trouble dépressif majeur, trouble de personnalité. Il y a plusieurs modèles qui ont été élaborés pour comprendre cette relation fort complexe, mais il y en a deux qui ressortent davantage de la recherche actuelle. D'abord, le modèle de vulnérabilité ou de prédisposition qui dit que les traits de personnalité mésadaptés prédisposent à la dépression. Alors, la PGRO, on sait qu'elle conçoit la personnalité comme un axe pivot pouvant prédisposer aux symptômes de l'axe 1. Ces symptômes sont susceptibles d'être récurrents et d'être le produit des facteurs de risque inscrits au cœur même de la personnalité. On voit bien donc que les prémices théoriques de la PGRO semblent appuyer ce modèle de la vulnérabilité. Le deuxième modèle populaire est celui des causes communes qui dit que troubles dépressifs majeurs et troubles de personnalité partagent une étiologie commune, mais sont des entités distinctes. À noter que la PGRO n'est pas incompatible avec ce modèle-là non plus, puisque le travail sur la personnalité aurait éventuellement un impact sur les symptômes dépressifs à cause de leur étiologie commune. Bon, je vais vous parler maintenant de l'étude que je suis en train de compléter. Puisque la personnalité semble être un ingrédient clé dans la chronicité du trouble dépressif majeur, je me suis intéressée à l'application de la PGRO aux pathologies dépressives. Justement, la PGRO, au départ, est conçue pour traiter la pathologie de la personnalité. Et comme on vient de voir, la comorbidité, trouble dépressif majeur et trouble de personnalité entraîne la chronicité. Donc, c'est une première étude qui est quand même innovatrice pour voir l'application de la PGRO au trouble dépressif majeur. En PGRO, le travail sur la personnalité, c'est le travail sur le self. Donc, je m'intéresse donc à l'impact des changements dans le « ça », dans le « je », et dans la matrice de représentation des champs sur la diminution de la symptomatologie dépressive. Voici mes hypothèses. Diminution des traits de personnalité pathologique en fin de traitement, diminution de la symptomatologie dépressive en fin de traitement, élargissement des registres d'émotions, changement dans la fonction ça, capacité accrue de recourir au mode de régulation en toute conscience et de distinguer l'interne de l'externe, donc des changements dans la fonction « je », et enfin des changements dans les représentations de soi et de l'autre, dans la MRC. Voici les détails concernant la méthode. Alors, les sujets, il s'agit de 3 femmes recrutées à partir de ma clientèle. C'est un hasard que ce soit toutes des femmes, mais n'oubliez pas qu'il y a 2 fois plus de femmes que d'hommes qui en souffrent. Donc, je risquais de tomber sur plus de femmes que d'hommes. Elles ont tous un diagnostic de trouble dépressif majeur et ont souffert de dépression dans le passé. Elles présentent des traits de personnalité pathologique sans répondre aux critères d'un trouble comme tel. Donc, c'est sous-clinique. L'autocritique, le perfectionnisme ressort particulièrement, par contre. Elles prennent toute une médication antidépressive depuis au moins 6 semaines. Pourquoi? Parce que c'est une étude en milieu naturel que je fais. Et les sujets que je vois, moi, sont les plus, doivent être les plus représentatifs possibles de ma clientèle. Or, moi, les clients que je vois qui souffrent d'un trouble dépressif majeur prennent généralement une médication antidépressive. Au niveau de la procédure, il y avait 20 séances hebdomadaires. Il y avait une limite de temps à cause de l'étude, mais aussi, en ce moment, la recherche sur la dépression est souvent à court terme. Donc, je voulais pouvoir comparer avec les résultats existants. La vérification de l'adhésion à l'approche a été effectuée par une psychologue avec une formation avancée, 3e cycle en PGRO. Des évaluations pré-post-traitement multimodales ont été effectuées juste avant le début de la psychothérapie, juste après la fin et 6 mois après la fin. Plusieurs instruments de mesure ont été utilisés, dont des instruments standardisés administrés par une psychologue indépendante pour mesurer la dépression et la pathologie de la personnalité. Des auto-évaluations hebdomadaires des symptômes dépressifs, anxieux, perception de soi, perception de l'autre en cours de traitement. Et le diagnostic structural a été effectué 4 fois par la thérapeute au cours du traitement. Alors, je vous présente maintenant les résultats. Alors, première hypothèse confirmée, diminution des traits de personnalité pathologique. Ces diminutions ont été maintenues au suivi de 6 mois et ont même diminué. Non, ils ont été maintenues au suivi de 6 mois et ont même diminué pour 2 des participantes au suivi de 6 mois après la fin de la thérapie. Ça nous rappelle ce qui est cité par Shedler, qui dit que l'amélioration des gains en psychothérapie suite à la fin de la thérapie peut être observée même après la fin de la thérapie. Alors, on voit pour les... en fait, c'est pour les clients... les couleurs ne sont pas différenciées. C'est pour les 2 et 3. Ça continue à descendre. Pour la... Oups, je l'ai trop vite. OK. Deuxième hypothèse confirmée en ce qui a trait à la symptomatologie dépressive. En fin de traitement, aucune ne remplit les critères d'un épisode dépressif majeur. Les résultats sont maintenus au suivi de 6 mois et j'ai fait un suivi téléphonique après 1 an. Ils n'étaient toujours pas en dépression. Ils n'étaient toujours pas en dépression? Elles n'étaient plus en dépression? J'ai dit quelque chose de drôle, hein? Vous me comprenez? Rendez pas ça difficile, là. On continue avec les hypothèses concernant le diagnostic structural. Élargissement du registre des émotions, ce qu'on appelle des changements dans la fonction SA, chez les trois participantes. Par exemple, en début de traitement, j'ai une cliente qui a une émergence de tristesse, de culpabilité. Elle a un désir de me plaire. Elle remplit les questionnaires, elle les refait, ça n'a pas de bon sens. Et elle veut tellement bien faire les choses. Et à la fin, ben, c'est un peu moins ça. Ça ajoute l'émergence de frustration, une tendance à s'obstiner avec moi. Il y a comme un début de colère qui commence à venir, qui est une bonne nouvelle dans son cas. Peut-être moins une bonne nouvelle pour moi. Capacité accrue de recourir au mode de régulation en toute conscience et de distinguer l'interne de l'externe. Alors là, on parle de la fonction « je », ça a été observé chez les trois participantes. Un exemple de ça, bien, au début, j'ai une participante qui rétrofléchit sa tristesse, qui défléchit mon soutien et projette que l'autre est totalement démuni sans elle. Et à la fin, elle se permet de pleurer avec moi, elle accepte un peu plus mon aide, elle distingue mieux l'interne, où elle se sent indispensable et l'autre est démuni sans elle, de l'externe, où elle arrive à voir que l'autre, en l'occurrence moi, peut l'aider parfois. Alors, on voit qu'il y a des changements à ce niveau-là. Changement maintenant dans les représentations de soi et de l'autre, c'est ça. Chez les trois participantes, ça a été observé encore. Un exemple de ça, au début, bien, il y en a une qui sent qu'elle est indispensable, elle n'a pas de limite, l'autre est incapable sans moi. À la fin, elle se voit aussi fragile, aussi vulnérable. L'autre peut parfois l'aider. Alors, on voit que les représentations commencent à être un peu plus complexes et un petit peu plus nuancées. Les changements dans le self observés au moyen du diagnostic structural semblent aller dans le même sens que les résultats des tests standardisés qui mesurent une diminution des traits de personnalité pathologique et une diminution des symptômes dépressifs. Allez, voilà. Bon. Alors, les conclusions de cette étude, bien, il s'agit d'une première étude pour évaluer l'utilité de la PGRO sur le trouble dépressif majeur accompagné d'une pathologie de la personnalité. Les résultats préliminaires sont prometteurs. La PGRO semble en tout cas aussi efficace que d'autres approches pour soigner un épisode dépressif à court terme. La diminution des traits de personnalité pathologique est observée également à court terme. Et le travail, la personnalité a un impact sur la dépression. Les changements dans les traits de personnalité pathologique, dans la symptomatologie dépressive et dans les composants du self semblent être en lien. Forces et limites maintenant, eh bien, ce sont des résultats quand même préliminaires, intéressants. Ce sont de premières données empiriques obtenues au moyen d'évaluations psychométriques multimodales rigoureuses dans un milieu clinique naturel. Ça demeure cependant des résultats préliminaires qui apportent un éclairage partiel vu le petit nombre de sujets qui ne permet pas à ce stade-ci de généraliser les résultats. Un seul thérapeute a participé, donc on ne peut vraiment pas distinguer les facteurs liés au thérapeute de ceux qui relèvent de l'approche. Et bien, le traitement est de courte durée. Cependant, la puissance des résultats obtenus est un incitatif pour poursuivre la recherche. S'il y en a que ça intéresse, moi, j'ai fait ma part. Bon. Des heures de plaisir. OK, maintenant, comment expliquer l'efficacité de la PGRO dans le traitement du trouble dépressif majeur? Bien. Ah, OK, bon. La PGRO, comme je l'ai dit au début, est en accord avec les principes associés empiriquement à l'efficacité du traitement dans les troubles dépressifs. Ces principes ont été élaborés par un groupe de travail de l'Association américaine de psychologie américaine et ils ont identifié 48 principes à suivre dans le traitement des troubles dépressifs. J'ai révisé les 48, je ne vous en ferai pas part ce soir. Cependant, je vais vous donner un résumé. Dans le cadre de ma recherche, j'ai constaté que la PGRO, en fait, était en phase avec la majorité de ces principes. L'adhésion à ces principes optimise l'efficacité du traitement, peu importe l'approche utilisée, et ces principes sont appuyés par l'ensemble de la recherche empirique actuelle sur le traitement de la dépression. Il y a trois catégories de principes, ceux reliés aux participants, alors clients et thérapeutes, ceux reliés à la relation thérapeutique et ceux reliés aux techniques. Je vous en donne juste quelques exemples. Par rapport aux participants, un principe principe dit que le niveau d'incapacité du client, alors plus le problème est grave, moins les traitements brefs sont bénéfiques. Mais justement, la PGRO est une approche intensive, de longue durée, dans laquelle l'évaluation initiale rigoureuse permet de définir les objectifs en fonction de la gravité des problèmes. Un autre principe, l'assimilation de l'expérience. Ce qu'on dit, c'est que les interventions doivent être conformes au niveau d'assimilation du client. Et en PGRO, avec le dialogue herméneutique, on s'assure que le matériel est assimilable, que le langage est en phase avec le client, qu'il y a un rythme optimal, une prosodie. Alors, on est tout à fait en phase avec ce principe. Troisième principe, si on regarde sur lié à la relation thérapeutique, l'importance de développer et de maintenir une alliance solide pour assurer l'efficacité du traitement. Eh bien, en PGRO, le développement de l'alliance et la capacité de réparer les ruptures est centrale. Aussi, l'élaboration des cycles de reproduction, reconnaissance et réparation repose évidemment sur une alliance solide. On ne pourrait pas faire ça sans alliance. Ce qu'on dit aussi, c'est d'éviter les interprétations relationnelles excessives. Bien, en PGRO, on privilégie le dialogue herméneutique plutôt que de l'interprétation. Pour les principes reliés aux techniques, je vous en donne deux exemples. Les techniques doivent faciliter le développement de mécanismes adaptatifs. Bien, c'est ce qu'on fait en PGRO dans le cycle de réparation, en favorisant le développement d'ajustements créateurs. Aussi, identifier les patterns affectifs, cognitifs, comportementaux qui contribuent au maintien et à la chronicité du problème. On retrouve là l'élaboration des cycles de reproduction et de reconnaissance et le développement des affinités interchamps qui permet ça. Voilà. Alors maintenant, à la lumière de ces principes, je vais maintenant aborder avec vous comment on peut un peu ajuster la PGRO aux pathologies dépressives. D'abord, établir des objectifs à court terme, par étapes, ainsi que des objectifs à long terme. Le client déprimé est affaissé. Il a peu d'énergie, il a peu d'estime de soi et très peu d'espoir. Alors, il est vraiment important de le mobiliser avec des petits objectifs atteignables à court terme. Miser sur la réduction de symptômes au début, car c'est très difficile de travailler sur la personnalité si les symptômes dépressifs sont sévères, car la mentalisation est alors précaire et sont souvent en fait en mode d'équivalence psychique. Donc, régulation affective avant mentalisation. Donner de l'information sur la dépression aux clients qui sont dépressifs, son amélioration lente et graduelle, son amélioration en dentsie, afin que le client ait des attentes réalistes et optimistes. Il faut un peu porter l'espoir pour eux. Le seeking puis le play, là, c'est pas fort à ce niveau-là. Alors, il faut un peu porter le seeking et le play pour eux aussi. Donner de l'information sur les facteurs de vulnérabilité reliés à la personnalité dans la dépression et l'importance de continuer de travailler une fois l'épisode dépressif terminé. Je ne sais pas pour vous, mais dans notre contexte de travail au Québec, on subit beaucoup de pression pour travailler la dépression à court terme. Et c'est vraiment important d'informer le client des conséquences d'un traitement à court terme qui risque d'avoir des rechutes pour qu'il y ait vraiment un consentement éclairé. Informer le client, informer les médecins, informer les tiers payeurs. On essaie un peu de mobiliser ça, en tout cas, de notre côté de l'océan. Un rôle plus actif avec des clients dépressifs. Vérifier et ajuster les objectifs régulièrement. Ajuster et possiblement plus de techniques au début pour faciliter la réduction de symptômes. Méthode de relaxation, pleine conscience, ce dont parlait Pierre tantôt. Activation comportementale, gestion de l'anxiété. Favoriser une alliance de collaboration. Être très vigilant avec cette clientèle-là aux ruptures d'alliance. Parce qu'il faut même être proactif avec eux. Parce que souvent, ils ont tellement peu d'énergie, peu d'estime de soi, qu'ils ne vont pas nécessairement vous communiquer leur insatisfaction. Et ils vont peut-être arrêter la thérapie, vous ne saurez même pas pourquoi. Alors, avec cette clientèle-là, c'est vraiment important d'être proactif et de vérifier ces choses-là. Alors, puis le vérifiant, bien, selon leurs besoins, être flexible face aux objectifs, les modifier au fur et à mesure. Finalement, dans le champ 1, on nous recommande, au niveau du champ 1, avec un client dépressif, d'utiliser davantage des interventions de soutien plutôt que de confrontation. L'état fragile du client fait en sorte qu'il supporte mal la confrontation. Aussi, ne pas oublier qu'il souffre aussi très souvent d'un trouble de personnalité, donc gare aux identifications projectives qui pourraient induire en nous des attitudes et interventions peu aidantes, mettons. Agir une colère ou une frustration que le client clive, quand le thérapeute sombre dans une impuissance, on en perd ses moyens, on ne sait plus quoi faire, alors on a été contaminé contagieusement par le client. Il faut faire attention à ça. Alors, en résumé, j'ai fait état de la nature complexe, chronique et récurrente du trouble dépressif majeur, pouvant être attribuable à une pathologie de la personnalité, et des défis que cela pose sur le plan du traitement. J'ai identifié la PGRO comme solution possible, et les résultats préliminaires de mon étude sont encourageants. Et enfin, la PGRO est conforme aux principes reconnus pour le traitement des troubles dépressifs, ce qui est une très bonne nouvelle, et elle peut être facilement ajustée aux pathologies dépressives. Alors, bien, écoute, je souhaite que mes propos aujourd'hui vous aideront dans votre travail avec ces clients très souffrants, mais aussi très touchants. Et je vous remercie et je vous souhaite une belle soirée.
Alors, comme tout à l'heure, nous vous convions à quelques minutes de discussion à deux ou trois personnes, puis ensuite on continuera avec les questions.
Ma fille est arrivée en arrière, rangée en blond, là, la petite blonde qui me regarde, elle dit « Allô, là! » Oui, déjà arrivée, juste pendant ta présentation.
Merci, bravo, c'est trop bien.
Merci. Oui, oui, oui,
ça va?
Ah oui, ça va bien. Oui. Mieux, hein? On baisse un peu, là. Oui, oui. Mieux.
Merci, c'est vraiment bien,
bravo. Oh, je suis rentrée dans mon temps, c'est bon?
Ah oui, c'est parfait. C'est pas de problème. Là, il y aura, tu sais, on va voir quand il reste des questions, hein, puis en fonction des interventions.
C'est ça.
Il y aura à peu près 20 minutes de questions.
Correct
pour
vous autres,
là,
ça va?
Ah, oui, oui.
Tu veux enlever ta clé, peut-être?
Je ne peux pas juste la retirer comme ça.
Hein. On va fermer ça pour aujourd'hui, de toute façon.
Store and go, oui. Ah, on est parti?
C'est bon.
Merci.
OK.
Ça va, toi?
C'est des gens qui sont très avancés dans la PGRO, c'est des gens qui ont des mal.
Oui. histoire de background aussi. Hein. Absolument, mais tu sais, c'est le genre de choses qu'on entend à nouveau, on intègre à nouveau. Hein.
D'accord, êtes-vous suffisamment réchauffé pour débuter la période de questions? On vous demanderait un petit peu d'attention, tout le monde. Également, après la période de questions, on vous demanderait à tous de rester dans la salle quelques minutes pour un mot qu'on aimerait vous adresser. Donc, ne pas quitter tout de suite.
Il y a une intervention ici, s'il vous plaît.
Quand on entend les chiffres que vous donnez sur le taux d'évolution de la dépression dans la société, alors on peut évidemment s'intéresser à l'aspect curatif, c'est ça que vous faites tous les deux. Moi, je voudrais m'intéresser à l'aspect survenu de la pathologie, c'est-à-dire à sa dimension sociale. Qu'est-ce que c'est que cette société dans laquelle ce type de trouble progresse ? Et évidemment, ce n'est pas l'objet de la conférence et c'est complètement OK, mais ça serait aussi intéressant d'éclairer ce bout-là.
C'est sûr que c'est un reflet. C'est un reflet de ce qu'on vit en société, où tout va vite, où il y a beaucoup de pression à performer, à monter les échelons. Je pense qu'il y a beaucoup de pression à ce niveau-là. Peut-être pas beaucoup de support non plus pour les gens, je ne sais pas. Mais c'est évidemment... Ouais.
Oui. En tout cas, moi, je relis aussi le livre de Ehrenberg sur la fatigue d'être soi, hein, qui s'intitule sous-titre de Société et dépression, qui en parle beaucoup. Hein, finalement, on est dans une société où on met beaucoup la pression, il faut être performant, et donc ça favorise les pathologies narcissiques et les états limites, qui sont des personnalités fragiles à la dépression. Voilà, donc je suis intéressé par ta question, mais c'est effectivement, on a chanté volontairement cette question-là. Je trouve que c'est intéressant de la reposer, en tout cas, hein, parce qu'on est dans un contexte de société quand même très préoccupant. Hein.
J'ai été troublé par un slide dans lequel vous dites que les TDM n'influencent pas la personnalité, mais que l'inverse est vrai.
Oui.
Moi, j'ai du mal à vous suivre, là. Surtout qu'en plus, Pierre a dit que l'hippocampe était altéré par des épisodes répétitifs de dépression.
C'est vrai que ça semble se contredire. En fait, moi, mes données me viennent de la recherche actuelle sur ces phénomènes-là. Et ce qui semble ressortir le plus, c'est que la personnalité n'est pas modifiée à long terme par la dépression. C'est ce qu'on conclut à l'heure actuelle. Est-ce que des recherches plus poussées pourraient y voir autre chose? Mais c'est vraiment ce qui ressort de la recherche empirique actuelle. Par contre, l'inverse est très, très validé, il est très soutenu empiriquement. La pathologie de la personnalité, elle, affecte clairement la dépression.
Oui, ce qu'on peut dire, j'évoquais rapidement la question de la personnalité post-dépressive, parce qu'effectivement, lorsqu'on arrive dans des dépressions assez chroniques ou des récidives, disons, de dépression, bah, il apparaît qu'effectivement, la personnalité de base est un petit peu abrasée, et donc il apparaît plus de symptômes de dépression, hein, d'où effectivement la terminologie de dépression post-dépressive, avec une grande sensibilité aux frustrations, au stress, etc.
Ou est-ce que ça serait que parce que la dépression, plusieurs fois, la dépression n'est pas résorbée complètement, alors là, ça laisse des séquelles qui peuvent être évidentes, mais ce n'est pas nécessairement la personnalité qui est affectée, c'est encore la dépression qui est active chez la personne.
Je vais reprendre la question initiale de Jean-François d'abord, et ensuite, je vais vous poser une question. On pourrait se demander jusqu'à quel point la pression croissante, en tous les cas chez nous, envers des traitements de courte durée, ne fait pas justement partie de ces conditions sociales de rétablissement accéléré pour retourner dans un univers qui, de manière cyclique, produit des dépressions. Mm-hmm. On peut penser que des personnes sont en rechute, mais on peut aussi penser que le système social produit cycliquement des dépressions et, dans sa façon de vouloir les traiter, reproduit le germe de la future dépression. Mm-hmm. Parce qu'on n'a pas le temps de faire le travail nécessaire à toute la remétabolisation des enjeux inachevés. Cela étant dit, j'aimerais beaucoup vous entendre parler sur les caractéristiques singulières du travail de champ 1 avec les déprimés ayant une pathologie de la personnalité. On sait que dans le traitement des pathologies de la personnalité, le monde affectif du thérapeute va se trouver sollicité par une sorte de contagion affective perpétuelle et virtuelle. Mais quand on travaille avec des personnes qui sont dans un état dépressif et qui ont en plus en comorbidité un trouble de la personnalité, il me semble qu'on est encore plus à risque de mettre en acte des affects défensifs à nous ou donnés par l'identification projective par eux. On peut se retrouver, je l'imagine, en situation de cheerleading, je ne sais pas si vous utilisez ce terme, pour essayer de booster le système. On peut être fâché du peu de progrès. Alors, qu'est-ce que vous observez être des balises de sagesse, au fond, par deux thérapeutes qui fréquentent beaucoup la dépression? Qu'est-ce qu'on peut se donner comme repère pour limiter les dégâts de l'identification projective dans le champ?
Oui, je réponds aussi à la première question, parce que ce qui me vient aussi, c'est qu'en fait, on parle de dépression en économie, hein, dans la société. Et effectivement, il y a une sorte de contagion au niveau social et au niveau des personnes qui sont affectées, au fond, hein, par cette dépression, par ce climat dépressiogène. Hein. Donc ça, c'est une première réponse. Alors pour le champ 1, c'est évident qu'en fait, il y a un risque énorme lorsqu'on est avec des personnes dépressives. Et donc, au fur et à mesure, je crois que je me suis laissé prendre. J'ai dû répéter aussi avec eux plusieurs fois. Et puis finalement, quand j'ai été pris plusieurs fois, j'ai commencé à prendre un petit peu de recul. Et personnellement, la pratique du zazen dont je parlais, le travail de centration que je peux faire, m'aide davantage justement à contenir les émotions, les humeurs qui m'envahissent, qui m'appartiennent ou qui appartiennent aux clients, hein, pour pouvoir mieux remettre, prendre du recul. Donc je pense que la première phase, au fond, comme tu le disais, hein, c'est contenir des affects négatifs qui peuvent nous arriver avant de les partager de façon intempestive et qui pourraient être trop violents dans une confrontation. Hein. Je pense que Dominique l'a dit, et moi je le répète. Hein. Et à un moment donné, effectivement, lorsque la personne est en mesure d'entendre, de pouvoir partager des choses de cet ordre-là. Voilà, donc je pense qu'effectivement, la pleine conscience s'adresse aux dépressifs, mais je crois que ça s'adresse aussi à chacun de nous, dans notre capacité, disons, à se centrer, à prendre du recul et à s'autoréguler dans ses émotions, y compris dans la relation thérapeutique.
Bien, c'est ça, je compléterai en disant, il y a comme un long moment où ils doivent accepter d'être dans cet état-là. Alors, dans le champ 1, on peut être avec eux dans cet état de presque de non-vie, hein, Et c'est dans ce sens-là que j'ai de garde aux identifications projectives, parce que comme contre-transfert, des fois, on a envie de les brasser un peu, ou bien on devient complètement impuissante comme eux. Alors, c'est comme d'accepter, bien oui, c'est un long processus. Et oui, mais ce qui est nouveau, c'est qu'il est là avec quelqu'un d'autre. Il est accompagné dans cet état-là de grande... souffrance, c'est de grande. Il est très démuni, mais il n'est pas seul dans cet état-là. Alors, je dirais que dans un premier temps, là, quand les symptômes sont encore très, très actifs, là, c'est d'être avec, dans ça.
Un livre qui m'a beaucoup intéressé, c'est La fin de la plainte de Roustan. Donc, effectivement, je pense que chez des dépressifs particulièrement, c'est important d'entendre la plainte et de l'écouter et de les réécouter, parce qu'effectivement, ils ont besoin de se plaindre en permanence, quitte à, effectivement, à énerver leur environnement, hein, ce qui arrive assez souvent. Et puis, à un moment donné, comment dire, pouvoir dire stop, hein, si on passait à autre chose. Mais avant, il faut il y a un long temps hein, qui a besoin de se passer pour reconnaître au fond comment ils sont souffrants. Et à partir du moment où ils reconnaissent qu'ils sont auteurs de leur propre existence et des troubles aussi qu'ils ont pu mettre en place, là, il y a un vrai travail, disons, de fond qui commence à se faire et une confrontation possible.
Oui, moi j'ai une. Il y a quelque chose qui me frappe dans votre présentation, c'est votre vitalité. Et je mets ça en rapport avec la dépression. Et je me dis, du coup, ça me fait formuler un peu une question, enfin une hypothèse et une question, c'est qu'au fond, vous avez trouvé une vitalité extraordinaire à faire une recherche sur ce thème. Et je me posais la question, du coup, des effets de cette vitalité sur votre posture de travail, la posture thérapeutique et tout ça.
Ouais.
Et pour Pierre, pour moi, c'est un peu différent parce qu'il n'a pas fait une recherche universitaire là-dessus, mais il a fait une recherche approfondie sur le lien entre la pleine conscience et la dépression, et son accompagnement des personnalités dépressives, des personnes dépressives. Et je me dis que ça participe aussi de quelque chose dans ce qui peut se passer. C'est comment, enfin, je vous pose la question du coup, comment votre propre vitalité, à condition qu'elle ait un objet, pour moi, externe, et qu'elle justement ne soit pas centrée sur la réussite dans la thérapie, que la personne dépressive fasse quelque chose, mais votre vitalité se déplace, et du coup, vous avez une vitalité, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit jouer, et que j'imagine qu'un thérapeute accompagnant des personnes comme ça, qui n'aurait pas ce type de, je dirais, de vitalisation, intellectuelle, affective aussi, profondément affective, existentielle, peut-être courrait plus le risque de tomber dans les identifications projectives et donc du coup de tenter de faire plus avec la personne dépressive trop rapidement.
Oui, c'est sûr, face à ça, dans mes premières années, j'ai dû vraiment être davantage dans un rôle plus sauveur. Et à force de me brûler à ce niveau-là, j'ai trouvé une posture, une présence à l'autre qui me protégeait moi aussi, tout en étant accessible et pouvant aussi être qui j'étais avec eux. Mais effectivement, j'aime travailler avec ces gens-là.
Moi, je crois que j'étais un adolescent dépressif qui s'ignorait. Et je pense que après mon travail thérapeutique, finalement, ça m'a permis aussi de prendre conscience comment je compensais beaucoup ces affects dépressifs qui me traversaient par une hyperactivité, une action, un côté débordant, et de pouvoir aussi être touché par la souffrance de ces patients. Alors effectivement, affectés, pris dans une impuissance avec eux, mais aussi, et j'en suis très reconnaissant vis-à-vis d'eux, de me permettre de faire une recherche sur cette question qui m'affectait beaucoup personnellement dans mon histoire et qui en même temps m'aidait beaucoup dans ma pratique thérapeutique. Quoi. Et souvent, moi, j'ai souvent mis, comme toi tu l'as fait, Dominique, solliciter mes patients directement pour faire une démarche active dans cette recherche, en leur disant clairement que je suis en train de réfléchir à ça. Est-ce que vous acceptez qu'on en parle ? Voilà, donc ça, c'est très important. Et l'autre aspect, la vitalité, au-delà, effectivement, d'un aspect un petit peu hyperactif, je pourrais avoir, je trouve, et le travail de centration m'aide à trouver quelque chose de paisible en moi, de moins stressant, de moins angoissant et de plus joyeux. Hein. Et donc, effectivement, de ne pas me laisser affecter par le climat parfois mortifère avec lequel les dépressifs arrivent. Sans en rire, sans m'en moquer, mais disons de ne pas me laisser prendre dedans. Hein. Voilà, je trouve que j'arrive à trouver une distance, une bonne distance, disons, où je peux être affecté sans être pris au piège, quoi. De leurs affects.
Bonjour. J'ai beaucoup de mal à parler en public, donc excusez-moi. Parfois, je manque d'air. Bon. C'était juste pour dire qu'il y a un chercheur qui a adressé la problématique de la co-construction entre le patient et le thérapeute. C'est un Tchèque qui s'appelle Jan Rubel. Et qui a, sur le site du séminaire de Rome, le EAGT, sur la recherche, a mis son vidéo sur son expérience en tant que psychiatre dans un pavillon de dépressive, comment lui-même il est tombé en dépression sans comprendre ce qui lui est arrivé. Il tombait très bas. Et donc, il a décidé de prendre cette expérience, de se poser des questions. Et aujourd'hui, il a sorti une recherche qualitative sur une sorte de la danse entre le patient et le thérapeute. Et il a même modélisé de façon flexible ce qui peut se passer. Donc, je trouvais ça utile personnellement en tant que thérapeute parce que ça me dit, tiens, il y en a d'autres qui ressentent la même problématique avec les dépressifs. Et même quelqu'un a essayé de tenter de modéliser son expérience. Ça, c'est sur le site de l'EAGT, le séminaire de Rome sur la recherche.
Ah, voilà. Merci.
Et merci pour votre présentation. C'était très bien.
Merci.
Et bravo d'avoir osé parler.
Bien, on va clore cette journée en vous remerciant et en vous applaudissant.